Bien, on avait commencé l'étude de l'œcuménisme la dernière fois. On était arrivé à peu près aux années 60. Donc les conférences du Conseil œcuménique des Églises, qui avaient lieu donc de temps en temps, et le grand essor du Conseil œcuménique avait été l'Assemblée de New Delhi en 1961, au cours de laquelle on avait assisté à l'entrée massive de nouvelles églises, et notamment d'un certain nombre d'églises orthodoxes. Les principales églises orthodoxes étaient entrées donc, dans le Conseil œcuménique des églises, ce qui avait d'ailleurs amené une reformulation de la confession de foi du COE, Conseil œcuménique des églises, sur une base beaucoup plus trinitaire, puisque c'était l'exigence que mettaient les orthodoxes à leur entrée. En 1968, une autre conférence mondiale du COE a lieu à Uppsala, en Suède, sur le thème « Je fais toutes choses nouvelles ». Et là, on compte 230 églises représentées, originaires de 80 pays. Il y a 15 observateurs catholiques qui sont également présents et qui communiquent un message du pape Paul VI. Au travers duquel le pape précise que l'Église catholique ne peut entrer dans le Conseil œcuménique des Églises parce que c'est incompatible avec sa théologie, mais que l'Église catholique ne cherche en aucune manière à imposer ni son ecclésiologie, ni sa théologie aux Églises avec lesquelles elle est en dialogue et qu'elle entend être en dialogue sur un pied d'égalité avec les autres Églises. Mais que si elle devient membre du COE, elle devient donc membre d'une organisation non romaine qui, en quelque sorte, est au-dessus d'elle. Ça veut dire qu'elle cesse de se reconnaître et de se considérer comme la seule Église véritable. Hein, c'est ça, finalement, l'enjeu. Et par conséquent, donc, elle continue à travailler avec le Conseil œcuménique des Églises par l'intermédiaire des différentes commissions dont elle est membre, notamment Foi et Constitution, pour ce qui est du dialogue théologique, n'est-ce pas, ou dans laquelle l'Église catholique est membre à part entière, bien qu'elle ne fasse pas partie elle-même du COE. La conférence suivante a lieu en 1975 à Nairobi, sur le thème « Le Christ libère et unit ». Et là, maintenant, on a affaire à 371 églises qui sont représentés. Donc, à chaque fois, il y a une augmentation du nombre des églises membres du Conseil communautaire des églises. Et il y a aussi 16 observateurs non catholiques. En 1993, on assiste à une autre rencontre à Vancouver, au Canada, où le thème est celui-ci, Jésus-Christ, la vie pour le monde. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que jusqu'en 1966, c'est-à-dire jusqu'à Uppsala, donc jusqu'à New Delhi plus exactement, les problèmes qui étaient débattus dans ces conférences mondiales du COE étaient essentiellement des problèmes d'ecclésiologie. À partir d'Uppsala, 1967, ce sont les problèmes du monde qui sont débattus. Hein. C'est-à-dire une recherche, il y a une recherche du dessein de Dieu pour le monde dans finalement la ligne d'Augustin pour ce qui est de l'Église d'Occident et de Basile le Grand pour ce qui est de l'Église d'Orient. C'est-à-dire l'idée que finalement l'Église doit régner sur le monde. Et à partir d'Uppsala notamment, il y a une dérive de plus en plus politique, politico-sociale du Conseil communautaire des Églises. Il faut dire que cette dérive est aussi favorisée par les orthodoxes et toutes les églises finalement, qui sont originaires des pays de l'Est. Nous sommes encore à l'époque ici où le communisme est tout puissant dans ces pays de l'Est et le pouvoir politique communiste contrôle étroitement les églises et notamment les dignitaires des églises, les patriarches, etc., qui représentent ces églises au COE. Et ça n'est un secret pour personne, en tout cas pour ceux qui veulent un petit peu être au courant que les dignitaires, notamment de l'Église orthodoxe russe, bulgare et autres, sont en fait des agents du KGB, des agents du régime. Et que un des buts essentiels du pouvoir communiste, quand il a donné à ces églises le feu vert pour qu'elles entrent au COE, c'est-à-dire à New Delhi en 1961, était justement de prendre le contrôle du mouvement œcuménique pour en faire un instrument, une courroie de transmission en faveur des thèses marxistes, finalement. Et par conséquent, par l'intermédiaire des dignitaires des églises originaires de l'Est, il y a petit à petit une marxisation du Conseil œcuménique qui s'opère et qui va s'accentuant au fil des années et dont on constate les ravages à chaque nouvelle conférence mondiale. Uppsala, Nairobi et puis Vancouver, n'est-ce pas, marquent une gradation dans cette dérive pro-marxisante, où l'on fait des grandes déclarations en faveur de la paix, selon évidemment les principes de l'Union soviétique, etc. Alors, ce qui est aussi très intéressant, c'est de noter qu'à partir de ce moment-là, le COE fait le blackout total sur les persécutions dont sont victimes les églises dissidentes dans les pays de l'Est. Et lorsque on soulève un petit peu le lièvre, il arrive parfois que des délégués dans ces conférences mondiales soulèvent un peu ce lièvre. Les représentants officiels donc du Conseil œcuménique font taire les représentants en disant que c'est une question dont tout le monde est bien conscient, mais que on ne peut pas en traiter publiquement, car alors les églises auxquelles on veut venir en aide souffrirait encore davantage. Elle souffrirait de représailles, le pouvoir qui serait alors dénoncé, c'est le pouvoir communiste et marxiste qui serait alors dénoncé, se vengerait sur les chrétiens qui sont déjà persécutés. Donc, il vaut mieux les laisser, il vaut mieux ne rien dire, il vaut mieux les laisser être persécutés sans prendre leur défense, plutôt qu'essayer de leur défense, car essayer de les défendre, ce serait aggraver leur tourment. Alors, c'est un argument tout à fait spécieux, car en même temps, évidemment, on ne se fait pas faute de dénoncer les régimes qui sont anathèmes pour les pouvoirs communistes, le Chili, etc. Enfin bref, dans les années 70, bon, j'en passe des meilleurs. Et c'est alors que un certain nombre de gens vont prendre le contre-pied de cette politique, et ce sera notamment le cas de Richard Mombrant, dont nous allons parler justement dans un instant, pasteur roumain qui a été emprisonné par le régime marxiste de Roumanie et qui, après avoir passé 14 ans dans les prisons, a finalement été racheté contre rançon, c'est pas, par justement des églises, et donc est passé à l'ouest. Et dès qu'il est passé à l'ouest, Richard Mombrant n'a rien de plus pressé que de dénoncer, justement, d'une part, les persécutions dont les chrétiens sont victimes dans les pays de l'Est, et ça coïncide aussi avec l'arrivée en Occident de Solzhenitsyn. Ce sont deux tournants très importants, n'est-ce pas, que c'est l'arrivée de ces dissidents, comme on les appelle à cette époque-là, n'est-ce pas, représentants de ce qu'on va appeler à cette période l'Église du silence, qui, justement, vont déchirer ce voile faussement pudique que le COE s'est entretenu de hypocritement, n'est-ce pas, de jeter sur les souffrances de cette Église du silence persécutée, et de telle sorte que le silence, justement, l'ignorance ne sera plus possible. À partir de ce moment-là, la situation des chrétiens persécutés, et des juifs persécutés d'ailleurs, parce que c'est aussi quelque chose qui va de pair, va devenir quelque chose de notoire. Et c'est le début, c'est l'arrivée à l'ouest de ces dissidents qui vont parler va marquer le début de la chute du communisme. Le communisme ne s'en relèvera pas. Et Mombrant déclare que cette politique hypocrite du COE va à l'encontre de ce qui est souhaitable, parce qu'au contraire, justement, les autorités communistes n'ont peur que d'une chose, c'est qu'on parle des persécutions qu'ils font subir à leurs victimes. Et lui, au contraire, propose, suggère, et, au contraire, une dénonciation tous azimuts. Plus on en parlera, plus on fera de bruit sur ces choses-là, et bien mieux les frères persécutés se porteront. Lui-même avait pu s'en rendre compte que chaque fois que certains timidement avaient pris la parole pour défendre les chrétiens persécutés en Roumanie, eh bien, leur sort s'était immédiatement amélioré quand ils étaient en prison. Mais dès que, au contraire, on retombait dans le silence, alors les autres s'en donnaient à cœur joie, quoi. Il va y avoir aussi, au sein du COE, un certain nombre de gens qui vont intervenir, notamment Jacques Ellul, qui est membre du COE dans ces années-là. D'autres aussi, qui vont dénoncer deux choses. D'une part, justement, cette politique hypocrite, pro-marxiste et pro-bloc de l'Est, qui est celle du COE vis-à-vis des chrétiens persécutés, et qui va dénoncer même une chose beaucoup plus grave encore, puisque là on assiste à une dérive gauchisto-tiers-mondiste de la part du COE, n'est-ce pas, qui s'en prend à l'Occident avec véhémence, etc., pour distiller la mauvaise conscience, et qui pendant ce temps-là achète des armes avec les fonds qui lui sont donnés pour les mouvements révolutionnaires marxistes en Angola, par exemple, au Mozambique, dans certains pays d'Afrique, en Amérique du Sud, en Bolivie, au Nicaragua, le Honduras, comment ça s'appelle ce petit pays-là, qui était aussi en révolte dans ces années-là, ça s'appelle le Belize maintenant, je crois, ça s'appelait à cette époque-là le San Salvador, si ma mémoire est bonne. Et donc là, il y avait des guérillas marxistes, pro-marxistes, castristes, avec Che Guevara et tout ça. Et le COE, secrètement, débloquait des fonds pour acheter des armes, pour armer ces guérillas. Alors évidemment, c'est un beau scandale et un beau tollé lorsque des membres du directoire du COE dévoilent ces choses. C'est pas ? Alors évidemment, on assiste à des démentis touchants de la part des autorités du COE, etc. Mais finalement, c'est un secret de polichinelle que le COE a été compromis jusqu'au cou dans ces affaires-là. Il est intéressant de constater qu'après la chute du communisme, le COE n'a pas cru devoir faire amende honorable en rien. On a tourné la page pudiquement, sans un mot, n'est-ce pas, et on a parlé d'autres choses, mais on a recommencé dans la dérive tiers-mondiste à fond, et aussi donc dans le pro-palestinisme. Le pro-palestinisme... maintenant, qui a pris le relais, en quelque sorte, de la marxisation du COE, et l'impulsion du Conseil des Églises du Moyen-Orient, le COE donc, avait publié, en 1986, si ma mémoire est bonne, un projet de prière universelle, pour à dire dans toutes les églises, en faveur des pauvres Palestiniens persécutés, ce qui nous avait amené à réagir, je ne sais pas si vous en souvenez, certains d'entre vous, oui, pour une prière juste, etc., bon, qui avait été étouffée, ce qui montre justement le poids qu'ont ces gens-là. Ils ont un poids considérable, n'est-ce pas ? Et donc, il y a cette dérive qui se poursuit à l'heure où nous parlons, n'est-ce pas, et qui fait que le COE a perdu beaucoup de son impact, beaucoup de son influence et beaucoup de son autorité. Depuis Nairobi, la visée du Conseil œcuménique était double. D'une part, l'unité de l'Église, mais également l'unité du monde. Donc, le COE milite pour la mondialisation et tout ce qui touche autour de ça, n'est-ce pas ? Bon. À côté des rencontres du COE lui-même, mondial, donc, il y a aussi de temps en temps des rencontres du département Foi et Constitution, qui alors là, selon sa vocation propre, travaille essentiellement sur des problèmes théologiques. Et c'est ainsi qu'il y a plusieurs rencontres qui méritent d'être soulignées. Accra en 1979, Bangalore 1980, Lima 1981, et c'est un moment très important car c'est le moment où le Foi et Constitution publie un petit livret qui s'appelle le BEM, Baptême, Eucharistie, Ministère, où finalement on note l'état des dialogues sur ces trois points cruciaux, n'est-ce pas, pour l'unité des Églises, où l'on constate que, mis à part les mouvements baptistes, il y a une reconnaissance mutuelle des baptêmes de la part des grandes églises qui constituent le monde chrétien, que les églises de type baptiste qui refusent la reconnaissance mutuelle des baptêmes sont invitées à évoluer dans ce domaine-là, et que l'on espère qu'elles évolueront dans le bon sens. Pour ce qui est de l'Eucharistie, on note les réticences du côté catholique, bien sûr, ça, mais aussi, en espérant que les choses évolueront et ce que l'Église catholique demanderait pour que, justement, l'Eucharistie des autres soit reconnue. Et enfin, le problème du ministère, évidemment, qui est peut-être le plus sensible de tous, puisqu'il touche aussi au ministère d'unité tel que le conçoit l'Église catholique, c'est-à-dire essentiellement le ministère papal. Et l'Église catholique, donc, avec sa manière de faire, on peut dire, n'est-ce pas, sans changer le fond de son discours, en change la forme, espérant que, ayant une autre forme, n'est-ce pas, eh bien, sa doctrine serait plus acceptable aux non-catholiques. Ainsi, par exemple, le ministère de Pierre, comme ils le disent, n'est-ce pas, le ministère papal, n'est plus présenté comme un ministère d'autorité dans le baptême, mais comme un ministère de communion, un ministère d'unité, un ministère de service, n'est-ce pas, le pape étant le serviteur des serviteurs de Dieu. L'impression que c'est le modèle même de l'humilité, n'est-ce pas? Et que ce faisant, donc, ce ministère sera plus acceptable pour les non-catholiques. Le baptême reste en quelque sorte, jusqu'à aujourd'hui, la Bible de l'œcuménisme, n'est-ce pas? Et il indique les grandes lignes vers lesquelles il faut évoluer pour que l'on arrive justement à l'unité. Il se présente comme une confession de foi commune. Il y a une autre rencontre dans le même temps de foi et constitution dans les années 80 à Melbourne qui porte sur le thème « Que ton règne vienne ». Et puis enfin, dernière en date, dans le siècle, n'est-ce pas, dans les années 90, la rencontre de Séoul, de cette fois-ci l'ensemble du Conseil œcuménique, non plus seulement foi et constitution. Et Séoul est une rencontre qui fera date aussi dans l'œcuménisme, parce que c'est la rencontre du désenchantement. Là, les anarcho-gauchistes qui ont pris le contrôle du CEE ont poussé le bouchon un peu loin. Il est présidé par des féministes. Là aussi, il y a une grande dérive pro-féministe qui s'opère à l'intérieur du CEE, et une théologienne coréenne qui également a des talents de danse, n'est-ce pas, est là pour présider, apporter plusieurs études qu'elle ponctue de danse plus ou moins douteuses, qui font que la majorité des représentants orthodoxes qui se trouvent là, choqués, outrés, considérant qu'il s'agit d'une danse absolument impudique, quitte la salle. Non seulement il y a là des spectacles douteux qui sont offerts à ces délégués, mais également cette brave coréenne, théologienne, fait référence aux esprits ancestraux des peuples coréens, et sous prétexte d'une théologie de l'inculturation, n'est-ce pas, propose la réhabilitation des cultes non seulement coréens, mais également africains, sud-américains, enfin tous les peuples du tiers-monde. Après tout, le christianisme est venu mettre fin à des pratiques ancestrales qui ne sont pas toujours incompatibles avec le christianisme et qu'il conviendrait de réhabiliter. C'est plus que les orthodoxes ne peuvent en supporter. Vous savez combien les orthodoxes sont très fermes sur la doctrine trinitaire. Ils y voient une atteinte justement à la doctrine trinitaire qui est la base du CEE, et ils considèrent que le CEE n'a plus de raison d'être. Et se pose la question, à l'issue de la rencontre de Séoul, les orthodoxes déclarent qu'ils envisagent, ils vont se rassembler, ils vont engager une réflexion pour savoir s'ils poursuivent leur participation au CEE ou s'ils quittent le CEE. A lieu à Rhodes, donc, dans les mois qui suivent, une rencontre des principaux dignitaires, des patriarches, le synode panorthodoxe, comme on l'appelle, qui se rassemble en île de Rhodes, et qui décide de boycotter donc le Conseil œcuménique. Ce n'est pas une rupture définitive, mais c'est un boycott. On demande du côté orthodoxe un recentrage du COE sur l'Évangile, sur la doctrine trinitaire, et aussi longtemps que ce recentrage n'aura pas été effectué, eh bien les orthodoxes bouderont le Conseil œcuménique à défaut de le quitter. Et bien entendu, si les choses allaient trop loin, alors on se réserve du côté orthodoxe le droit de claquer la porte du Conseil œcuménique. Et c'est ainsi que le siècle se termine donc dans une crise grave au sein du Conseil œcuménique qui sort donc de cette crise considérablement affaiblie. Et pour essayer justement de se refaire un peu, si j'ose dire, le Conseil œcuménique des Églises va tenter de s'ouvrir aux évangéliques et notamment aux mouvements pentecôtistes qui sont devenus à la fin du siècle une composante très importante du monde chrétien. Puisque non seulement il y a les pentecôtistes classiques, mais il y a ce qu'on appelle les néo-pentecôtistes, c'est-à-dire ceux qui, dans les églises traditionnelles, historiques, protestantes, ont reçu les charismes et le baptême dans le Saint-Esprit, et puis évidemment toute la frange charismatique catholique, n'est-ce pas, qui représente aussi quelque chose de très important. Et alors justement, le COE, profitant du fait que les églises traditionnelles se sont ouvertes au pentecôtisme, proposent donc, font des avances, et c'est en cours actuellement, il y a des dialogues et il y a des contacts qui sont pris pour que les églises en question entrent dans le COE, n'est-ce pas? Ce qu'elles envisagent d'ailleurs avec beaucoup de réticence, bien qu'il y ait des rapprochements, et pour le moment, il n'est pas question que ces églises entrent dans le Conseil œcuménique, elles voudraient plutôt un statut un peu d'associé, un peu comme l'Église catholique, quoi, hein, des observateurs, mais il n'est pas question pour elles d'entrer dans le COE. Surtout justement dans les situations dans lesquelles on se trouve aujourd'hui. Bien, le thème de Séoul était donc le royaume de Dieu sur la terre et les luttes humaines. Bon, il n'y a pas eu que des luttes humaines, il y a eu des luttes à l'intérieur du Conseil lui-même. Et alors, l'idée, c'était l'Église témoigne du royaume de Christ et conteste les pouvoirs humains. Bien. Donc, si vous voulez, la situation aujourd'hui est confuse en ce qui concerne le Conseil œcuménique des Églises, qui représente quand même l'aile marchande du mouvement œcuménique non catholique. Et si, à la fin du siècle et au début du siècle suivant, l'œcuménisme est en crise, c'est bien entendu en grande partie, comme nous allons le voir, à cause du durcissement catholique, mais aussi, on pourrait dire, de la confusion dans laquelle se trouve à la fin du siècle le Conseil œcuménique des Églises, donc automatiquement le monde non catholique, protestant et orthodoxe. Du côté catholique, le mouvement œcuménique aussi a poussé ses propres jalons, indépendamment évidemment du Conseil œcuménique, mais même si, bien entendu, c'était aussi en symbiose avec lui, comme nous l'avons vu. Et c'est ainsi que Paul VI, en 1969, visite Genève. Donc, au lieu à la fois du protestantisme calviniste, mais aussi siège du Conseil œcuménique. Et là, donc, il est reçu au Conseil œcuménique pour rappeler, contrairement à l'invitation qui lui est faite par les responsables, qui l'invite vraiment, l'Église catholique à sa place dans le Conseil œcuménique, n'est-ce pas? Nous invitons l'Église catholique à entrer à fond. Et Paul VI reprend ce qu'il avait dit 2 ans plus tôt, ce qu'il avait fait dire 2 ans plus tôt dans son message à Uppsala, que le temps n'est pas mûr pour l'Église catholique d'entrer dans le COE, mais que il y a, outre foi et constitution, création à partir de cette date d'un groupe mixte de travail avec le COE. Et jusqu'à la fin du siècle, l'Église catholique va multiplier comme ça les groupes mixtes, c'est-à-dire des dialogues mixtes avec des églises particulières, et non pas toutes les églises, mais des églises spécifiques. N'est-ce pas? Bon, il y a aussi le groupe mixte avec le COE, mais ensuite on va avoir des groupes de réflexion et de travail avec des églises précises, des églises particulières. Et il va y avoir donc à la fin du siècle 108 groupes 108 groupes de travail, 108 groupes mixtes donc de dialogue catholiques et non catholiques, si vous voulez. Non, pardon, 108 groupes de travail, mais dont l'Église catholique n'est partenaire que de 60 d'entre les autres. Sont des, par exemple, entre luthériens réformés, baptistes réformés, etc. Bon. Donc, si vous voulez, il y a tout un travail là qui se fait pendant la fin du siècle, pendant cette période-là. Le premier document qui sera publié par ce groupe mixte avec l'OCRE, notamment, qui a été mis en place en 1969 à Genève, est publié l'année suivante, en 1970, et porte ce titre « Témoignage commun et prosélytisme de mauvais aloi ». C'est un texte intéressant dans le sens que il condamne, avec raison à mon sens, n'est-ce pas, le prosélytisme de mauvais aloi, c'est-à-dire la tentative de débauchage, n'est-ce pas, de gens d'autres confessions, mais réaffirme que si quelqu'un, en pleine connaissance de cause, après avoir réfléchi, sans avoir été conditionné en rien, décide librement par une démarche personnelle de rejoindre telle autre église, non seulement on ne doit rien faire pour empêcher ce départ, mais également ça ne doit pas porter atteinte aux bonnes relations œcuméniques que ce genre d'échange. En 1971 a lieu donc un dialogue avec l'Église anglicane. L'Église anglicane qui va connaître une évolution un peu particulière, dans ce sens qu'elle va se rapprocher de l'Église catholique. Jusqu'à cette période, l'Église anglicane était considérée plus ou moins comme une Église protestante. Et à partir de cette date, et de plus en plus, elle va s'affirmer comme une église différente des églises protestantes. Il faut dire que l'église anglicane n'est pas seulement l'église d'Angleterre, mais elle est également répandue dans la plupart des pays anglo-saxons, où elle prend le nom d'église épiscopale ou église épiscopalienne. Et quand vous entendez parler d'église épiscopalienne, il faut savoir que c'est tout simplement une branche américaine ou australienne ou néo-zélandaise de l'église d'Angleterre, de l'église anglicane. Bon. Et alors, finalement, on arrive à des dialogues très poussés avec l'Église catholique, et on va même jusqu'à envisager une fusion des deux Églises. L'archevêque de Canterbury, qui est le primat de l'Église d'Angleterre, l'archevêque Ramsay, se rend à Rome à plusieurs reprises, également avec Jean-Paul II, dans justement l'idée de refaire l'unité, et il étant entendu que l'Église d'Angleterre garderait dans le cadre de l'Église catholique sa spécificité, c'est-à-dire qu'on s'achemine plus ou moins vers une sorte d'uniatisme. Vous savez, l'uniatisme qui concernait les orthodoxes ou les Églises orientales, qui au XIXe siècle avaient rejoint Rome, tout en gardant leur rite, leur liturgie, leur langue, leur tradition, etc., mais en reconnaissant la primauté de l'évêque de Rome. Donc elles gardaient une certaine autonomie au sein de l'Église catholique, y compris par exemple la possibilité pour leurs prêtres de se marier. Et bon, c'est un petit peu le modèle que la papauté propose à l'Église anglicane. Et les choses sont sur le point de se faire lorsque justement un obstacle de taille vient quelque sorte faire en sorte que le bateau se brise, dans ce sens que à ce moment-là, l'Église anglicane reconnaît l'ordination des femmes. Et la papauté met en garde en disant que le dialogue serait rompu le jour où l'Église anglicane ordonnerait des femmes. L'archevêque de Canterbury passe outre et organise et ordonne des premières femmes prêtres, comme on dit maintenant, dans l'Église anglicane. C'est donc la rupture avec Rome et bon, on est revenu au statu quo ante, et actuellement, le dialogue est complètement bloqué entre l'Église anglicane et l'Église catholique sur cette question justement de l'ordination des femmes. Justement, en 1975, le dialogue mixte anglicano-catholique publie un texte sur le ministère et l'ordination, justement parce que c'est le problème qui est au centre de la question. En 1976, cet organisme se rassemble à Venise et se penche sur le problème de l'autorité dans l'Église. Donc, on tourne toujours autour de cette question du ministère. C'est une autre manière de prendre le problème du ministère, bien entendu, et qui montre que c'est justement l'os. On bute sur cette question du ministère, comprenez essentiellement le ministère papal, quoi, le ministère dit de Pierre. En 1967, dans le même temps, l'Église catholique a entrepris un dialogue avec la Fédération luthérienne mondiale. Et ce dialogue, qui publie donc dès l'année suivante un texte qui porte le nom Évangile et Église, tourne autour de la question qui a été à la base de la réforme du XVIe, c'est-à-dire la justification par la foi. Et l'Église catholique parvient à ce tour de force extraordinaire de faire admettre aux luthériens que, en fin de compte, la rupture du XVIe siècle a été un malentendu, que l'Église catholique a toujours professé la doctrine de la justification par la foi, et que s'il est vrai qu'au XVIe siècle, elle a eu des formulations malheureuses, et des formulations malheureuses aussi à partir du Concile de Trente, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, elle a formulé les choses d'une manière telle que l'on est arrivé, il y a quelques années de cela, à des accords luthéro-catholiques sur la justification par la foi, et où l'on a constaté une identité de vue, n'est-ce pas, entre l'Église catholique et la Fédération luthérienne mondiale sur la question essentielle de la justification par la foi. Ce qui veut dire que on ne voit plus très bien maintenant ce qui empêcherait la Fédération luthérienne mondiale de rejoindre l'Église catholique. Du côté réformé, on a crié au loup. Du côté réformé, on a dit, c'est une manœuvre. En fait, la formulation de la réforme reste plus actuelle que jamais. Et finalement, le slogan des réformateurs, par la foi seul, reste valable, car c'est le mot seul qui est essentiel. Que l'Église catholique ait toujours professé la justification par la foi, c'est ce qu'on a toujours su. Luther en était bien conscient. Mais l'Église catholique ajoutait par la foi et par les œuvres. Et quand on scrute bien, disent les réformés, quand on scrute bien les textes, par exemple le Vatican II, ou les catéchismes qui sont publiés par les conférences épiscopales nationales, on se rend compte que finalement la doctrine catholique n'a pas changé. Oui, justification par la foi, mais aussi par les œuvres. Et à force de crier au loup, les réformés se sont fait entendre, et du côté luthérien, un certain nombre de gens se demandent si effectivement, au travers de ces fameux accords luthéro-catholiques, ils ne se sont pas fait rouler dans la farine. Ce qui fait qu'actuellement aussi, le dialogue est bloqué. Ce qui n'empêche pas que justement, un certain nombre de gens qui ont été engagés dans ces dialogues-là en ont tiré les conséquences. Et c'est ainsi qu'il y a peu, un inspecteur ecclésiastique, ça veut dire un évêque luthérien, si vous voulez, si on appelle ça en France des inspecteurs ecclésiastiques, parce qu'on n'aime pas en milieu luthérien le mot évêque, c'est de l'anticatholicisme. L'inspecteur luthérien, ecclésiastique, de l'inspection de Paris, c'est-à-dire le diocèse de Paris, si vous voulez, est passé au catholicisme avec armes et bagages, disant que puisqu'on était d'accord sur la doctrine la justification par la foi, il n'y avait aucune raison de ne pas rejoindre l'Église catholique. Et il a été ordonné prêtre de l'Église catholique. Ça fait scandale dans la Fédération protestante de France. Il n'est pas le seul à avoir eu cette démarche. Donc, en 1978, un dialogue aussi est entrepris, deux dialogues en fait, d'une part avec l'Alliance réformée mondiale, et puis ensuite avec le Conseil méthodiste mondial. Donc, parallèlement au dialogue luthéro-catholique. Et en 1978, donc, est publié un document sur l'Eucharistie, qui émane du premier dialogue, c'est-à-dire avec l'Alliance réformée mondiale, et avec le Conseil méthodiste mondial, en 1981, un texte sur le ministère. Donc, on tourne toujours autour de cette question du ministère. Et dans le même temps, l'Église catholique entame aussi des dialogues avec les évangéliques. D'une part, avec les baptistes qui ont été très lents, est très réticent à entrer dans le dialogue œcuménique avec l'Église catholique, et qui finalement, dans ces années 80, finit du bout des lèvres par accepter un dialogue. Ce dialogue est très timide, et finalement n'ira pas très loin. Se bornera à des généralités, à des constatations de convergence sur un certain nombre de points, notamment pour ce qui concerne la diaconie par rapport au monde. finalement, on va se borner à peu près à cela, parce que ce dialogue provoque au sein des baptistes de base une telle levée de boucliers que finalement, on ne peut pas aller très loin. Quand nous étions au Vatican, le responsable donc de secrétariat pour l'unité du chrétien, le père Dupré, nous a confirmé que les dialogues avec les évangéliques étaient très difficiles. Bon, dans le même temps aussi, a commencé un dialogue avec les différents mouvements pentecôtistes. Les différents mouvements pentecôtistes se sont rassemblés à Rome pour un dialogue qui a suivi justement l'explosion du mouvement charismatique en milieu catholique. C'est David Duplessis qui a pris l'initiative de ce dialogue et qui l'a présidé, pour ce qui est du côté pentecôtiste, jusqu'à sa mort. On trouvait donc là des représentants dans ce dialogue-là des principales organisations pentecôtistes mondiales, mais également aussi d'églises charismatiques non pentecôtistes, ainsi que d'ailleurs des représentants évidemment de l'Église catholique. Là aussi, les résultats ont été modestes, et les ambitions aussi d'ailleurs étaient finalement modestes. Bien, à partir de... Alors, pour ce qui est de la France, n'est-ce pas, à partir de 1974, il va y avoir deux grands événements œcuméniques qui vont se manifester. Le premier, c'est la traduction œcuménique de la Bible, la fameuse Taube, T-O-B, qui avait été entreprise quelques années plus tôt, un petit peu comme une gageure. Et des exégètes, théologiens, n'est-ce pas, catholiques et protestants, avaient essayé d'entreprendre cette aventure à partir de l'Épître aux Romains, qui évidemment était le texte le plus controversé entre les deux confessions, se disant que s'ils réussissaient à traduire ensemble l'Épître aux Romains, alors tout le reste serait facile après. Et de fait, l'Épître aux Romains a été traduite sans grand problème, sans grande difficulté, parce qu'on s'est borné d'un côté comme de l'autre à faire une étude sérieuse du texte et honnête, de sorte qu'on peut dire que le Nouveau Testament TOB est une bonne traduction du Nouveau Testament. Je vous la recommande. Si vous la voulez, prenez-la sans notes, parce que les notes sont redoutables. Hein. L'édition avec notes est redoutable, celle-là je vous la déconseille vraiment. Et puis un autre avantage aussi, c'est que le Nouveau Testament TOB, sans notes, il est d'un prix beaucoup plus abordable que n'est le document avec notes. Donc votre porte-monnaie s'y retrouvera aussi. Ensuite, on est passé à l'Ancien Testament, qui alors lui est nettement moins bon. Il faut dire que l'équipe de traduction était plus hétéroclite, plus disparate, et ça se ressent nettement dans la traduction. Bon, donc c'est pas tellement intéressant, n'est-ce pas, l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, par contre, est vraiment bien, quoi. Hein. Pourquoi ? Parce qu'il a été fait justement d'une manière très très sérieuse. Toujours dans la même idée, en 74, a été organisé dans le centre des Fontaines jésuites, centre de retraite spirituelle jésuite à Chantilly, une conférence œcuménique nationale. Tous les différents partenaires de l'œcuménisme, catholiques, protestants, orthodoxes, anglicans et autres, n'est-ce pas, étaient rassemblés. J'avais l'honneur d'être un des représentants, le seul représentant évangélique avec le pasteur Charles Zé. Nous étions tous les deux les seuls représentants évangéliques dans cette rencontre-là. N'est-ce pas ? Ces rencontres ont eu lieu tous les 4 ans. Et donc, porter sur les différents problèmes qui se posaient à la réflexion œcuménique dans ces années-là. Et c'est ainsi que dans les années 80, alors un premier accroc grave a eu lieu justement à ce type de dialogue, lorsque la Conférence épiscopale des évêques de France a publié une note sur l'Eucharistie. Cette note sur l'Eucharistie rappelait, face à un certain nombre de dérives où de plus en plus des non-catholiques prenaient l'Eucharistie catholique avec l'accord des prêtres locaux, n'est-ce pas ? Et les évêques ont rappelé que les non-catholiques ne pouvaient pas être accueillis à l'Eucharistie catholique, sauf cas particuliers, spéciaux, Par exemple, si un malade n'avait pas la possibilité de communier dans sa propre église, n'est-ce pas? Exceptionnellement, une dérogation de l'évêque, et seule une dérogation de l'évêque local, pouvait autoriser temporairement et ponctuellement à un non-catholique de communier à l'Eucharistie romaine. Alors, dans le monde non-romain, ça a été un tollé généralisé. Une levée de boucliers sans précédent, n'est-ce pas? Parce que ça voulait dire que non seulement l'Eucharistie des non-catholiques n'était pas reconnue comme une Eucharistie valable, mais ça voulait dire que le ministère de ces églises n'était pas non plus reconnu. Et finalement, ça voulait dire que ces églises n'étaient pas des églises. Ça voulait dire ça? Alors, je me souviens de cette rencontre de Chantilly très houleuse, c'était en 1981, je crois, où les catholiques se sont efforcés de calmer le jeu en disant que, mais non, bien sûr que non, ils reconnaissaient l'ecclésialité, etc., mais que, bien sûr, enfin, bon, c'était le grand écart pour eux, quoi. Et leur prestation n'a pas convaincu, c'est le moins qu'on puisse dire. Et alors, un grand malaise s'est installé et ne s'est jamais véritablement dissipé à partir de ce moment-là. Bien, ensuite, ces rencontres se sont poursuivies à Viviers, quand la propriété des jésuites de Chantilly a été vendue, si ma mémoire est bonne. Et donc, c'est au grand séminaire de Viviers, dans l'Ardèche, que les rencontres ont continué à avoir lieu. Nous avons cessé d'y participer à partir de ce moment-là, dans la mesure où nous n'avons plus été invités. J'avions été invité notamment quand nous étions assez en cours avec notamment Jacques Maury, et puis aussi parce que nous étions les seuls évangéliques à cette époque-là. Puis, dans ces années-là, c'était l'année où avaient eu lieu les premiers dialogues avec le catholicisme, et notamment Schweitzer était un des représentants de ce dialogue avec le catholicisme pour le compte des baptistes, de telle sorte que les églises évangéliques ont eu des représentants donc à Viviers, on n'était plus utile en quelque sorte. Bon, alors, voilà. Autre point également important, les dialogues avec les Coptes. Les dialogues avec les Coptes n'ont pas été des dialogues faciles. D'abord parce que les Coptes, comme un certain nombre d'églises orientales, sont des églises non chalcédoniennes. Ça veut dire qu'ils ne reconnaissent pas la définition de Chalcédoine sur à la fois les deux natures de Jésus, sa nature divine et sa nature humaine, n'est-ce pas, qui s'unissent sans se confondre. Bon, c'est assez byzantin comme formulation. Et finalement, un certain nombre d'églises orientales n'ont pas accepté cette formulation. On les appelle donc les églises non chalcédoniennes, dont les Coptes sont parmi les principaux représentants, de même que les Éthiopiens. De ce fait, n'est-ce pas, pour Rome, ces églises sont pratiquement hérétiques. Pour les orthodoxes officiels aussi, d'ailleurs. Et donc, un rapprochement a eu lieu à partir de 1973, lors d'une visite du pape catholique avec le pape copte, le chef de l'église copte, porte aussi le nom de pape. C'est intéressant. Le pape actuel se nomme Chenouya III. Et en 1973, il y a eu un dialogue qui a été entrepris entre l'église catholique et l'église copte, qui a finalement abouti à une déclaration de foi commune, où finalement la question de Chalcédoine a été aussi plus ou moins résolue, un peu à la manière dont a été résolu le problème de la déclaration de la justification par la foi, donc avec les luthériens. Donc toujours un petit peu l'ambiguïté qui est la spécialité de l'Église romaine. Mais entre l'Église de Rome et l'Église copte, un autre problème a surgi, qui était un problème davantage politique. Depuis toujours, n'est-ce pas, les Coptes sont une des minorités les plus persécutées qui soient, par la majorité musulmane d'Égypte. Les Coptes se considèrent, Coptes ça signifie dans leur langue égyptien, ils se considèrent comme les véritables Égyptiens. Le nombre des Coptes qui a été réduit par l'islamisation forcée de l'Égypte, après la conquête musulmane, a entraîné donc non seulement cette diminution du nombre de coptes par conversion et par extermination, il ne faut pas oublier non plus, mais on a aussi volontairement, du côté égyptien, minimisé le nombre des coptes. Les coptes seraient entre 3 et 4 millions officiellement. Ils sont au moins le double, au moins le double. Et ils sont en pleine renaissance, en pleine ferveur, notamment au niveau des monastères. Pour cette raison même, n'est-ce pas, les Coptes, à l'inverse des autres églises orientales, qui sont des églises dhimmis, ça veut dire des églises qui, en tant que dhimmis, n'ont pas le droit de se plaindre des persécutions qu'elles subissent, et qui se trouvent aujourd'hui dans la situation dans laquelle se trouvaient les églises du silence du temps du communisme, dans ce sens que les églises officielles, le Conseil œcuménique et le Vatican se taisent sur leurs persécutions, comme elles se sont tues sur les persécutions de l'église du silence pendant le communisme. Les Coptes sont les seuls à ne pas jouer le jeu. D'ailleurs, ce silence est recommandé par Rome. Le Vatican demande, par exemple, aux Maronites, aux Melkites, aux Syriaques, etc., de subir. Et les instructions qui sont données par Rome à ces églises orientales dhimmis, persécutées, c'est de se faire humble et servant de la majorité musulmane. Manifester l'amour et le service, vous êtes au service de la majorité musulmane. C'est ainsi que le Vatican a laissé trucider les chrétiens du Liban, les maronites du Liban. Ouais. C'était le conseil qui leur avait été donné, et on sait ce qu'il en a été. Et les Coptes sont les seules églises orientales à ne pas jouer le jeu. Les Coptes n'arrêtent pas de crier à la persécution. Et le Vatican, donc, est en désaccord avec eux sur ce point. Le Vatican, qui joue à fond la carte islamiste, encore aujourd'hui, n'est-ce pas, et qui a publié un texte en accord avec le COE, pour dire que la campagne qui agitait les Coptes était en fait en sous-main manipulée par Israël. C'était Israël qui... aussi dans nos pays occidentaux, en France par exemple, tout le monde sait que les musulmans sont persécutés et sont discriminés en France, au moins autant que le sont les Coptes. Authentique, hein, ça c'est les textes là, j'aurais pu vous les amener, j'ai pas pensé faire. Donc si vous voulez, la situation est bloquée aussi avec les Coptes à cause de cet état où les Coptes reprochent aux églises occidentales de ne pas prendre fait et cause pour elles. Bon, disons que du côté américain, c'est en train de changer. Les églises évangéliques américaines ont constitué un comité avec des immigrés, d'ailleurs, d'Égypte, de Liban, enfin des différents pays arabes, pour venir en aide aux chrétiens persécutés en Orient, soudanais notamment. C'est pas, il y a actuellement une prise de conscience très importante de la situation du Soudan aux États-Unis. Et des pétitions sont faites au Congrès, etc. Et même le gouvernement de Clinton, qui pourtant était très très pro-arabe, a dû intervenir à plusieurs reprises pour demander quand même aux États arabes de modérer un petit peu les persécutions dont sont l'objet les chrétiens donc dans ces régions. Parmi les autres manifestations œcuméniques du siècle, notons en 1982, la création de l'ACAT, Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Ça s'inscrit assez dans le cadre du COE, dans la nouvelle direction qui avait été insufflée au COE, donc, qui était beaucoup plus occupée dans la deuxième partie du siècle d'intervenir dans les problèmes socio-économiques et politiques du monde que dans des problèmes proprement spirituels. Notons aussi l'évolution de Thésée. Thésée, qui au départ était une communauté protestante, qui faisait partie de la Fédération protestante, et notamment du département des recherches communautaires, dont il a été cofondateur avec la communauté de Versailles, Troyes-Versailles, et qui, en 1900, je ne sais plus exactement la date, avait déjà au départ une vocation œcuménique, une vocation de réconciliation, qui finalement a quitté la Fédération protestante pour être un mouvement qui n'était plus confessionnel, qui était composé de frères, n'est-ce pas, qui venaient de différents horizons, aussi bien catholiques que protestants ou autres, n'est-ce pas, et qui finalement se situaient au-delà des églises. Bon, le départ de Thésée de la Fédération protestante a été fort mal perçu, on s'en doute, mais finalement, le fait que il ne soit pas rattaché non plus à Rome officiellement a été mal perçu par l'Église catholique aussi. Mais le succès de Thésée, notamment auprès des jeunes, a été tel que d'un côté comme de l'autre, on a dû faire contre mauvaise fortune bon cœur. Et Thésée, ben, est une entité en soi avec laquelle on est obligé de compter aujourd'hui dans l'œcuménisme, même si parfois ça fait grincer des dents. Dans ces années-là aussi, une évolution inquiétante a eu lieu, et le père Schulz, donc, qui était le prieur de Thésée, a demandé à Rome une reconnaissance qui lui a été refusée. Par contre, son adjoint direct, n'est-ce pas, qui était le principal théologien, le théologien de Thésée, le père Max Turian, lui, secrètement, est passé au catholicisme, s'est fait ordonner prêtre par Rome, secrètement. Et c'est resté secret pendant plusieurs années. Alors évidemment, quand on a révélé que le père Max Turian était devenu prêtre catholique, ça aussi, ça a fait un beau tollé dans l'œcuménisme. À partir donc de la fin du siècle, alors que les églises orthodoxes étaient en plein renouveau, on a demandé aux églises quel modèle d'unité était leur idéal en quelque sorte. Comment on voyait cette unité? Et alors, finalement, ce qui est ressorti, c'était que on avait une église qui était, on allait vers une église unie et non pas absorbée. Bon, c'était aussi l'époque où, au niveau de la Fédération protestante, il y avait une dérive inquiétante. C'était juste après mai 68, et la Fédération protestante, sous l'influence de ces gauchistes, 68 tard, avait publié un document absolument aberrant qu'on appelait Église et pouvoir. C'était une assemblée générale du protestantisme qui avait lieu à Grenoble en 1968, donc juste après les événements. Et là, le document précisait que ce qui était un document de travail en principe, donc de réflexion et pas un oukase, mais quand même, qui a été considéré comme tel par la presse, n'est-ce pas, préciser que l'Église se devait de contester tous les pouvoirs et par conséquent être du côté de tous les mouvements révolutionnaires. Que les mouvements réformistes étaient trop peu efficaces, qu'il fallait prendre à fait et cause pour tous les mouvements révolutionnaires, notamment en Amérique du Sud, avec des théologiens comme Leonardo Boff, qui était le principal instigateur de ce qu'on appelait la théologie de la libération, qui créait des communautés de base qui avaient pour fin, n'est-ce pas, la révolution et qui s'alliaient avec le marxisme. Donc il y a eu cette dérive très forte qui a amené donc une remise en question. Bon. Dans le même temps aussi, l'Église catholique s'est ouverte aux religions non chrétiennes. Et notamment, le pape Jean-Paul II a convoqué dès le début de son pontificat une réunion de toutes les religions du monde à Assise pour une prière commune pour la paix. Chose qu'il a renouvelée et qui allait dans le sens de tout un mouvement d'union des religions qui avait commencé à Chicago, qu'on appelait le Festival de la foi, qui se tient tous les ans, n'est-ce pas, où sont invitées à participer toutes les religions. Bon, en milieu catholique lui-même, cette initiative de Jean-Paul II a été fort critiquée. Elle a été critiquée aussi, bien entendu, dans les autres familles du christianisme, qui ont vu là un dangereux syncrétisme. Jean-Paul II n'a pas toujours été très clair dans ce domaine-là, et notamment quand il visitait des pays étrangers, il lui arrivait de rendre hommage aux religions païennes de l'Inde, du bouddhisme, de la Chine ou des choses semblables, n'est-ce pas, qui faisaient grincer des dents, même parfois certains catholiques intégristes. Bon, maintenant on arrive ici à la fin du siècle, et là il y a un tournant dans le dialogue. C'est la dissolution du groupe des Dombes dont nous avons parlé la dernière fois. Pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la crise de l'œcuménisme, mais qui n'y sont pas quand même tout à fait étrangers non plus, dans ce sens qu'il y a eu un dialogue qui a marqué tout le siècle, l'essentiel du siècle, donc depuis 1911, on l'a vu, et qui a permis des échanges très fructueux, finalement, des rapprochements dans un certain nombre de domaines, et qui a permis d'éliminer des faux problèmes. Je crois que si on fait le bilan de l'œcuménisme ici, au début du siècle, n'est-ce pas, le principal apport positif de l'œcuménisme, outre la volonté de dialogue, c'était la première fois en l'histoire de l'Église que le mouvement centrifuge qui avait marqué donc la chrétienté, notamment à partir du XVIe siècle, se transformait en un mouvement centripète, un mouvement de rapprochement et non pas de division. Et ça, quelles que soient les critiques et la sévérité des critiques qu'on peut adresser au mouvement œcuménique, et c'est notre cas, mais on ne peut pas ne pas constater que la visée de l'œcuménisme, du rapprochement et du dialogue, ou des contacts en tout cas, entre les gens qui se réclamer de l'Évangile, est quelque chose qui est selon la volonté de Dieu, qui est un mouvement, qui est un mouvement du Saint-Esprit. Qu'il soit un comme nous sommes un. Bon, le comment de la chose, ça c'est un autre problème, et c'est justement sur le comment de la chose que portent nos critiques. Mais sur la visée, c'est quelque chose, il faut être à côté du message biblique pour s'y opposer, c'est évident. Donc l'apport essentiel de l'œcuménisme, outre cette volonté de rapprochement, cette volonté de dialogue et cette volonté d'unité qui est biblique, n'est-ce pas? Eh bien, a eu pour bénéfice d'éliminer les faux problèmes. Il y a des problèmes qui avaient été créés par des incompréhensions réciproques, des vocabulaires différents, des approches différentes. Ça a été le cas aussi, par exemple, même avec les églises orientales, par rapport à l'orthodoxie. Hein? Il y a eu ensuite une fécondation et un enrichissement mutuel par justement les contacts des différentes traditions. Et on s'est rendu compte que, sans adopter obligatoirement, évidemment, toutes les présupposés de la partie qui était en face de soi, disons, eh bien, ça permettait quand même d'adopter une autre manière de voir qui venait enrichir sa propre foi, sa propre piété. Et c'est Jacques Maury qui disait, une fois, il me disait, mais le dialogue œcuménique m'a conduit à approfondir ma propre foi. D'ailleurs, les gens des Dombes, c'était aussi les conclusions des gens des Dombes, et je suis devenu plus protestant que je ne l'étais avant le dialogue. Et du côté catholique, on dit la même chose. C'est les gens des Dombes disent ça aussi. Pourquoi? Parce qu'on est interpellé par l'autre et on est obligé, comme le dit l'apôtre Pierre, de rendre compte de sa propre foi. Pourquoi tu crois comme ça? Pourquoi tu n'acceptes pas mes dogmes, ma pensée? On est obligé de s'expliciter et automatiquement de repenser en profondeur sa foi. Donc ça a conduit, le dialogue œcuménique a conduit à un approfondissement de la foi de ceux qui ont été engagés dans ce dialogue. Et ça aussi, c'est un apport positif que l'on peut mettre au crédit justement de l'œcuménisme. Maintenant, l'œcuménisme aussi a eu des effets délétères. Et notamment, on est arrivé maintenant à un stade tout à fait particulier de blocage. Blocage pourquoi? Parce qu'après avoir justement éliminé les faux problèmes, ou avoir aussi établi une hiérarchie de problèmes, parce que finalement, on est arrivé à se poser la question suivante. Il y a des différences entre nous. C'est un fait, on en prend acte. Certaines de ces différences, finalement, qui nous divisaient, n'avaient pas lieu de nous diviser. Il y a, quand on lit la Bible, dans les différentes églises, l'église de Corinthe ou l'église de Jérusalem, il y a des différences qui ne portent pas sur l'unité, qui ne porte pas atteinte à l'unité. Il y a une unité dans la diversité. Et l'unité, qu'il soit un, ça ne veut pas dire qu'il soit uniforme. Ça veut dire qu'il y a une diversité qui ne porte pas atteinte à l'unité. Il y a donc des différences qui sont légitimes. Voilà. Alors, il faut classifier les différences. Quelles sont les différences qui sont légitimes et les différences qui ne sont pas légitimes? Autrement dit, pour parler un autre langage, quelles sont les différences qui ne sont pas séparatrices, qui ne brisent pas l'unité, et quelles sont les différences qui brisent l'unité. Ça veut dire que, à partir du moment où, par exemple, quelqu'un ne professe pas la Trinité, il ne peut plus se dire chrétien. Il n'est plus dans la communion de l'Église. C'est le cas des témoins de Jéhovah, par exemple. La différence qui est la leur est une différence séparatrice. Bon. Donc il y a une hiérarchie de différences. Et il y a des différences qui sont absolument indispensables, inacceptables, car elles appartiennent, c'est le langage qu'ils emploient dans l'œcuménisme, à l'essai de l'Église. L'essai, c'est un mot latin qui signifie l'être. L'être même de l'Église. Ça veut dire que si on touche à ce point, on touche à l'essence même de l'Église. Donc c'est le non possumus romain. Mais par exemple, le problème de la Vierge, mettons. Est-ce que c'est une différence séparatrice? On peut en discuter. Jusqu'à quel point c'est séparateur? Bon. Est-ce que quelqu'un qui croit que la Vierge est la Reine du Ciel n'est plus un chrétien? Et que par conséquent, cette foi que je ne partage pas, que je rejette, fait que je dois aussi rejeter celui qui professe ça. Vous comprenez la différence? J'ai le droit de rejeter ça, son opinion, mais est-ce que j'ai le droit de le rejeter, lui, en tant que chrétien, parce qu'il professe cette opinion-là qui n'est pas acceptable pour moi? Alors l'œcuménisme a permis de faire un petit peu une hiérarchie de ces différences-là. Et alors maintenant, justement, on s'est dit, mais quel est le noyau dur? Quel est le noyau irréductible sur lequel on bute? Et finalement, on s'est rendu compte que, ici à la fin du siècle, le noyau dur sur lequel bute l'œcuménisme, c'est le rôle de l'Église. C'est l'ecclésiologie. Et c'est pourquoi le XXe siècle est vraiment le siècle de l'ecclésiologie. Quelle est la fonction de l'Église? Quel est le rôle de l'Église? Et du côté catholique, on dit, par exemple, la structure pyramidale papale fait partie de l'essence de l'Église, c'est l'essai de l'Église. Du côté protestant, on dit non. Il y a une liberté, une certaine liberté dans la structure de l'Église, dans l'organisation de l'Église, qui ne porte pas atteinte à son unité. Et il y a là une diversité possible que l'Église catholique rejette. Mais plus encore, c'est le rôle de l'Église dans le plan de salut. L'Église catholique n'a pas renoncé à son vieil adage, même si elle ne le dit plus comme ça, mais c'est dans le fond la même chose. Hors de l'Église, pas de salut. Ça veut dire que l'Église est l'instrument obligatoire du salut. Par l'intermédiaire des sacrements, elle administre le salut. Et il faut obligatoirement passer par elle pour être sauvé. Alors du côté protestant, on dira oui et non. L'Église est un instrument privilégié du salut, bien sûr, mais quelqu'un peut être sauvé en dehors de l'Église. Exemple, le brigand sur la croix. Alors, c'est justement sur cette notion d'Église qu'on bute aujourd'hui. Et alors, si on en doutait, dans la dernière année du siècle, le Vatican, donc, commission pour la défense de la foi, l'ancien Saint-Office, si vous voulez, l'ancien organisme qui tenait entre ses mains l'Inquisition, a publié une note rappelant que l'Église catholique est la seule unique Église du Christ. Que appartenir à l'Église catholique est indispensable pour le salut. Qu'en elle existe la plénitude de l'ecclésialité. L'Église romaine seule a la plénitude de l'ecclésialité et ne sont pleinement chrétiens que ceux qui sont en communion avec Pierre, c'est-à-dire avec le siège épiscopal de Rome. Voilà. Quant aux autres églises, selon leur plus ou moins grande proximité de Rome, eh bien, elles ont gardé une ecclésialité plus ou moins importante. L'Église anglicane ou l'Église orthodoxe, bien que n'étant pas pleinement l'Église de Jésus-Christ, ont un degré d'ecclésialité dans la mesure où ils sont plus près de Rome et, d'une certaine manière, dépendent de l'Église de Rome. Quant aux protestants, qui alors eux, sur le plan ecclésiologique, il faut bien reconnaître que là, il y a quelques raisons à la critique, que les protestants devraient accepter un peu cette critique, enfin, eh bien alors leur ecclésialité, ben, il ne reste plus grand-chose, quoi. Alors, tous ceux qui sont séparés de Rome ne sont pas des églises, avis aux amateurs, mais au mieux des communautés ecclésiales. Quelle belle nuance! Alors, ça provoquait un beau tollé, n'est-ce pas? Cette note qui portait le nom de Dominus Iesus, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus. Alors, ça provoquait un tollé magnifique partout, n'est-ce pas? Parce que là, c'était comme au moment de la note d'Eucharistie sur les évêques. Parce que justement, c'était ce que Vatican II avait mis en sourdine. Vatican II a dit grosso modo la même chose. Mais, en termes plus élégants, ça passait mieux. Tandis que là, boum! Ça a été réaffirmé sans nuance, quoi. Alors ça fait le gros coup de tonnerre dans un ciel bleu, n'est-ce pas? Enfin, un ciel qui n'était plus tellement bleu, il faut dire quand même, à cette époque-là, de l'œcuménisme. Et cette note pour les évêques a été le point final à une crise de l'œcuménisme qui couvait depuis les dernières années du siècle et depuis justement cette fameuse découverte du noyau dur dont nous avons parlé sur l'ecclésiologie. Et aujourd'hui, l'Église catholique est en plein retrait par rapport à l'œcuménisme. Ils se dégagent de toutes sortes d'institutions œcuméniques dans lesquelles ils étaient engagés. Et l'Église catholique, notamment, entend maintenant reprendre, dans le contexte actuel, la direction de l'Europe. Et entend se faire reconnaître comme l'Église dominante en Europe. Sinon, l'Église unique, elle aura du mal, parce qu'il y a quand même les pays du Nord qui restent protestants. Mais en tout cas, l'Église qui pèsera de son poids le plus fort. Et tous ces efforts, maintenant, sont orientés sur ce point. Et l'œcuménisme est devenu tout à fait secondaire. Alors, on laisse fonctionner ceux qui existent, ronronner, parce que faut avoir toujours un fer au chaud. Un jour, on ne sait jamais, il faut réveiller ça. Mais alors, au plus bas niveau possible. Vous savez, comme quand on laisse la voiture au point mort, quoi. Hein, au point mort, et puis on laisse tourner le moteur, ou quoi, pour pas qu'il s'éteigne complètement, mais c'est tout, quoi. Alors donc, à la fin du siècle, l'œcuménisme, qui a suscité de grands espoirs au moment du milieu du siècle, Vatican II notamment, n'est-ce pas, eh bien, laisse aujourd'hui beaucoup de désillusions, beaucoup d'amertume, notamment pour des églises protestantes qui en ont fait leur fonds de commerce et qui finalement ne vivaient plus que par l'œcuménisme et qui aujourd'hui évidemment ont des énormes problèmes par rapport à ça. Voilà, si vous avez des questions à poser là-dessus. Comment ? Qui ça ? Thésée. Parce que justement, à cause de leur vocation œcuménique, ils pensaient qu'étant hors de la fédération protestante et de toute organisation ecclésiastique, ils seraient davantage un point de convergence de tout le monde, quoi. C'était un mauvais calcul, on l'a vu tout à l'heure, parce que ça a indisposé tout le monde. Oui, c'était leur raison. Oui, c'était leur raison. Oui. Et les catholiques n'aiment pas ça du tout. Ils n'aiment pas les électrons libres, hein, les catholiques. Il faut toujours une filiation. Ça, quand on discute avec les catholiques, tu appelles vite qu'il y ait contact avec la croix glorieuse. Hein. N'oublie jamais ça. Toujours dire à quoi on se rattache. Quoi, hein. Filiation spirituelle et filiation administrative aussi. Pour eux, c'est très important.
Je suis clair. Ça joue bien.
Qui est qui ? Ils aiment bien savoir qui est qui. Situé. Non. Après Schulz, non, c'est pas ça. Ah ouais, c'est effervescent, c'est... Ouais. Ouais. Ou alors ils sont attachés à Rome, finalement.
Ou alors ça sera récupéré.
Ils sont récupérés par Rome. À mon avis, c'est ce qui risque de se produire.
La mise en place de l'Europe va pas faire du bien à l'œcuménisme.
Ah non, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et alors sur un autre plan, on en parlera demain, ça, parce que ça, c'est justement une réflexion qu'il faut qu'on ait. Autre question?